Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambo.
Eh bien, bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2019. 2020 va voir arriver les élections municipales. On commence à en sentir des prémices. Les débats d'aménagement et d'urbanisme commencent à occuper les discussions à Paris, notamment en Île-de-France. L'actualité d'aujourd'hui nous amène à Paris. La maire sortante, Anne Hidalgo, annonce clairement qu'elle va mettre sa campagne sous le signe du changement climatique. Mais en même temps, plusieurs décisions du dernier Conseil de Paris semblent paradoxales de ce point de vue. Alors, je m'explique. En effet, les conseillers de Paris viennent de voter le lancement de 4 nouveaux projets urbains qui passent au stade opérationnel. Et tous les 4 ont un point commun. Ils projettent d'habiter le périphérique ou sur ses rives, à la gare des Mines, Pont de la Chapelle, le quartier Piton du Vernois face à Bagnolet, l'aménagement de la porte de Montreuil, le quartier Bédi-Houdinet, Porte d'Ivry. Et on peut même ajouter à ces 4 projets ceux de la ville multistrate, qui était Porte d'Éterne, lauréat de Réinventer Paris, et le projet Mille-Arbre, Porte Maillot, également lauréat de la même consultation Réinventer Paris. Alors 6 projets donc pour habiter le périphérique, qui est la première source de pollution au CO2 dans Paris. Et d'ailleurs, les enquêtes publiques de tous ces projets ont souligné ce problème, ce risque pour la population. C'est jusqu'au recours gracieux qui a été déposé contre Mille-Arbres qui retient principalement cette argumentation. Peut-on faire vivre des Parisiens dans les effluves du périphérique ? Alors, paradoxe, la réponse tient peut-être dans une autre des décisions du même Conseil de Paris, celui de décembre, qui décide d'engager des études pour réduire la circulation et donc la pollution sur le périphérique, en se dotant de nouveaux outils de mesure. Et voilà, c'est peut-être ce que nous allons voir venir à Paris sur le périphérique. Le décor est en tout cas planté, et place aux candidats.
Humeur de ville, l'interview.
Bonjour François Corr.
Bonjour.
Merci d'être venu jusque dans les studios de Radio Immo aujourd'hui pour Humeur de Ville, l'émission consacrée à l'innovation dans l'aménagement francilien. Vous êtes le directeur de la SEM départementale Aménagement 77 et vous avez développé depuis quelques années une stratégie spécifique adaptée à vos moyens et au contexte local de la Seine-et-Marne. Pour résumer, vous marchez sur 2 jambes, jusque là tout va bien. Vous apportez de l'ingénierie aux collectivités les moins dotées et dans le même temps vous faites de la copromotion. On va revenir sur ces 2 aspects de votre activité, mais peut-être vous pouvez nous dire déjà un mot des différentes manières d'accompagner les collectivités.
Merci de votre invitation. Alors effectivement, depuis quelques années, j'ai le plaisir d'être dans l'équipe d'aménagement 77, depuis 2016, d'en avoir pris la direction générale. Et avec nos actionnaires, on a pris le parti d'essayer de s'interroger sur qu'est-ce que c'était aujourd'hui que la place d'une SEM départementale, donc avec un actionnaire majoritaire, dans notre cas d'espèce, le département de Seine-et-Marne, vis-à-vis du territoire et de ses besoins en matière d'aménagement et d'immobilier. Je passe sur les 2 premiers métiers qui finalement vont assez vite puisqu'ils sont bien identifiés par le secteur, hein, celui de l'aménagement, donc être aménageur, et celui de construire des équipements publics en leur nom, aux collectivités. Et on a 2 autres métiers qui sont ceux que vous avez en effet évoqués, qui sont d'une part celui du conseil, qui est celui qu'on a souhaité beaucoup développer avec notre actionnaire, on pourra y revenir un petit peu plus, et celui de la copromotion. L'idée étant que le conseil étant certainement pas, en tout cas, le métier qui peut permettre d'avoir un retour sur investissement significatif, loin s'en faut. On est plutôt dans quelque chose qui est accompagnement, de façon apaisée, en prenant son temps vis-à-vis des collectivités, sur des thématiques qui sont souvent peu rentables, très clairement. Et à côté de ça, d'avoir la partie copromotion qui permet de pouvoir justement tenir, comme vous l'avez signalé, sur 2 jambes de façon équilibrée.
Vous estimez que ça fait partie de votre rôle d'accompagner les collectivités en matière d'ingénierie. Vous pouvez nous donner un exemple de conseil que vous pouvez leur apporter ?
Exactement. Là-dessus, on est vraiment en phase avec nos actionnaires, avec la Caisse des dépôts aussi, qui est notre 2e actionnaire. L'idée était de s'appuyer autour de cette notion de solidarité territoriale. Lorsqu'elle est sortie avec la loi NOTRe, tout le monde s'est interrogé sur finalement le fait de savoir si cette nouvelle compétence départementale n'allait pas être une forme de nouvelle clause de compétence générale. Très clairement, l'idée est d'essayer de s'en saisir sans se poser ce type de questions, mais d'essayer très concrètement de se dire en quoi ça consiste sur le territoire. Donc pour vous répondre, un exemple qui est à mon avis assez parlant, c'est ce qu'on a fait sur une de nos communautés de communes, qui en plus, tout le monde le sait, on sort d'un mandat électoral au cours duquel on a subi quand même pas mal de bouleversements territoriaux, notamment les recompositions de PCI. Et là, dans le cas que j'évoque, c'est une collectivité qui comporte une trentaine de communes qui étaient en cours de fusion pendant qu'elle devait travailler sur différents projets pour les différentes communes. Et il nous a été demandé d'essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'ils puissent capter, en tout cas des subventions qui étaient celles du département ou d'autres strates de collectivités, pour pouvoir faire. Alors des travaux et des projets qui sont très loin d'être spectaculaires, ça on en a tous d'accord, mais qui consistent à faire des projets de voirie, de la construction d'une nouvelle bibliothèque, l'extension d'une mairie, tout ça sur différentes collectivités mais au sein d'un même PCI, de telle façon à le cumuler dans un seul et même contrat, très clairement difficilement rentable pour la société, pour être tout à fait honnête, mais on est totalement dans la plaque de ce que vous indiquiez, c'est-à-dire être présent pour les territoires, y compris pour ces sujets-là sur lesquels l'ingénierie locale n'est pas toujours au rendez-vous.
Vous êtes aussi partie prenante d'une plateforme lancée par le département, une plateforme d'ingénierie à travers laquelle vous travaillez à la fois avec les CAUE, les services du département.
Exactement. C'est vraiment un volet que j'ai trouvé très, très intéressant, développé par le département lui-même, auquel on s'est simplement associé. Avec tous ces organismes associés, vous en avez cité certains, mais les services départementaux eux-mêmes y contribuent, et qui visent en effet à travers une plateforme qui s'appelle Ingénierie départementale 77, ID 77, de permettre à toutes les collectivités de pouvoir adhérer d'une part, et ensuite de mobiliser à travers un catalogue d'offres la capacité de bénéficier souvent de conseils de premier niveau sur lesquels on se concentre pour permettre aux collectivités de pouvoir bénéficier d'un bon niveau d'expertise sur les différents sujets qui peuvent jalonner leur vie quotidienne.
On va parler un petit peu de montage innovant, vous faites ça aussi, vous essayez de trouver des formules un peu plus rentables économiquement ou en tout cas un peu plus innovantes pour correspondre bien aux besoins du territoire. Je pense notamment à ce que vous avez mené à Pomponne, près de Lagny-sur-Marne. Vous nous en dites un mot ?
Alors avec plaisir, parce que c'est vraiment en tout cas une démarche dans laquelle on est très fiers et très investis. Elle répond à la deuxième jambe, puisque finalement en effet on vient d'évoquer la première, dont l'équilibre est par définition plus fragile. Et là on réfléchit plutôt sur cette deuxième jambe, elle qui a vocation justement à permettre à la première de fonctionner, donc à être plus rentable et plus équilibrée. L'idée était de dire, donc pour prendre l'exemple de Pomponne, on a affaire à une commune et une intercommunalité, puisque celle-ci est aussi très investie, qui s'appelle comme telle agglomération de Marne et Gondoire, et sur lesquelles vous avez donc une commune au titre de le développement de son PLU, une intercommunalité au titre de sa compétence Habitat, par exemple, un EPF, en l'occurrence celui de l'Île-de-France, qui a signé une convention avec ces deux collectivités-là. Donc on a vraiment le public dans toutes ces différentes entités qui s'investit pour faire en sorte d'avoir une stratégie foncière, donc identification de sites de développement potentiel, d'avoir tout ça tenu à travers une OAP, un PLU, et à travers tous ces outils qui sont ceux que classiquement tout le monde connaît dans nos métiers, d'avoir quelque chose qui tienne la route et qui fasse en sorte qu'on puisse répondre à un besoin qui soit cohérent avec le territoire. Et dans le cas d'Espèce, ils ont créé une SPL, pas spécifiquement pour ce projet-là, mais pour différents projets, qui s'appelle la SPL de Marne et Gondoire Aménagement, et qui, sur l'échelle de Marne et Gondoire, travaille justement à être son aménageur. Et nous nous sommes tout simplement insérés en discussion avec tous ces partenaires dans l'idée de devenir l'un des co-promoteurs de cette opération, puisqu'on reste à notre juste mesure aussi. On s'associe avec des partenaires privés qui ont beaucoup de choses à apporter au territoire. Et l'idée est d'être ce trait d'union, qui n'est pas toujours nécessaire, je vous l'accorde, mais qui dans certains cas, à mon avis, a beaucoup de vertus. Et lorsque les entités publiques se sont énormément investies, comme là je viens de vous le citer, il n'est pas anormal, à notre sens, qu'en tout cas un opérateur comme nous, parapublic, s'investisse à risque de la même manière qu'un opérateur privé sur ce dossier, de telle façon à ce qu'à la fin, la valeur ajoutée qui en est dégagée puisse permettre de récupérer évidemment une partie de la marge et une partie des honoraires qui vont sur l'opération, de façon à ce que nous, qui sommes des acteurs territoriaux, puissions les réinvestir sur le territoire. Et ce discours-là, en effet, a permis de pouvoir convaincre les acteurs en présence et de faire en sorte que notre partenaire qui a été désigné par la collectivité, qui est là dans le cas qu'on vient d'évoquer ensemble à Pomponne, sur un programme d'environ 150 logements, est avec Arche Promotion, désigné par la collectivité comme telle. Et on a souhaité aller un peu plus loin dans la logique de développement de nouveaux produits sociaux sur le territoire, avec une quarantaine de logements en BRS qui vont être développés sur ce programme. Donc on voit, je pense, en tout cas tout l'intérêt de différentes interventions publiques et parapubliques aux côtés du privé, et naturellement certainement pas contre lui.
Vous faites aussi d'autres opérations en copromotion, en tout cas il y en a plusieurs à venir. Il y en a une avec la COP Terralia également, ça aussi vous pouvez nous en parler parce que c'est intéressant, c'est à partir d'un foncier public, c'est peut-être une opération de faible envergure, mais en tout cas qui montre aussi une autre casquette de ce que vous pouvez faire.
Tout à fait, c'est plus modeste, mais certainement finalement pas moins important par les temps qui courent, je crois, sur les différents territoires et notamment ceux qui sont plutôt... en tout cas moins tendu que la première couronne parisienne. Là, en l'occurrence, c'est à Fontenay-Trésigny, c'est une petite commune, en effet, de Seine-et-Marne qui comporte 5000 habitants. On est en plein cœur du plateau de l'Abri. On est le long de la Nationale 4. Il faut vraiment être peut-être plus Seine-et-Marnais pour connaître. Mais toujours est-il que on a un actionnaire qui, en effet, s'appelle la COP Terralia, actionnaire historique, qui est là depuis plusieurs décennies. Et qui nous a fait le plaisir de partager en tout cas cette ambition de travailler sur un foncier qui est public, en effet, détenu par la commune, sur laquelle on a décidé d'essayer de travailler un projet avec eux, équilibré, et qui permettait de pouvoir avoir un développement d'offres de logements sociaux, imbriqué dans un programme global, rien d'innovant d'un point de vue strictement immobilier, mais en tout cas c'était à nouveau cette démarche de pouvoir travailler avec une coopérative de promotion immobilière qui partage avec nous, je crois, certaines valeurs professionnelles, et d'essayer, nous, vis-à-vis de la commune, d'être dans un partenariat de totale confiance et de totale transparence, puisque comme à chaque fois que nous travaillons en copromotion immobilière, nous nous engageons vis-à-vis des collectivités à être, alors plus transparent que transparent, après c'est toujours difficile par les temps qui courent d'avoir des garanties de ce point de vue-là, mais en tout cas de ne pas être uniquement sur les effets d'annonce a priori, mais bien et bien être étape par étape dans la démonstration, y compris pendant et a posteriori, des engagements que nous avions décidé de prendre avec eux par le passé.
Et les promoteurs s'engagent à vos côtés également à cette transparence.
Oui, alors force est de constater que oui. Après, l'honnêteté m'oblige à dire, parce que je pense que c'est important de le signaler, Aménagement 77, naturellement, à sa modeste mesure, n'a absolument pas inventé le système de la copromotion d'une part, ça c'est très clair, mais pas non plus celui de la copromotion entre un opérateur parapublic et un opérateur privé non plus. D'autres, y compris en Île-de-France d'ailleurs, l'ont expérimenté depuis déjà plusieurs années, parfois avec beaucoup de succès. Donc l'idée était en effet de s'investir là-dedans. Donc pour les opérateurs privés, pour répondre à votre question, pour eux, ça ne sort pas complètement de nulle part. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la sensation en discutant, y compris avec les majors ou avec les plus petits promoteurs locaux, qu'on était dans un dialogue qui leur semblait sorti de la lune. On était sur quelque chose qui finalement se défendait correctement. Et je crois que eux, assez logiquement, y trouvent aussi leur intérêt. Puisque dans un moment où la raréfaction foncière, y compris en Seine-et-Marne, existe, du fait de toutes les contraintes qui peuvent exister par ailleurs, et notamment du point de vue de l'urbanisation, du SDRIF et de tout ce qu'on peut connaître par ailleurs, forcément, ils y trouvent un intérêt parce que c'est une capacité de pouvoir avoir un relais, l'identification foncière et le développement foncier. Je précise que les opérations de copromotion sur lesquelles nous travaillons, on en est à 6 aujourd'hui en cours de développement, il n'y en a que 2 qui se situent sur nos opérations d'aménagement, les autres se situent donc à l'extérieur, ce qui démontre aussi en tout cas l'intérêt qui peut être identifié par les opérateurs privés qui parfois font appel à nous dans certains cas, et nous qui faisons appel à eux pour essayer justement de développer tout type de programme, aussi bien d'ailleurs en activité économique, puisque dans certains cas, on a une offre de développement de locaux de PME, PMI, qui est parfois un peu difficile à sortir dans le cadre du marché privé pur, et dans lequel on s'investit aussi aux côtés des collectivités pour essayer de participer. Donc oui, elle joue le jeu à 100% jusqu'à présent.
Et la promotion vous permet à vous de tirer aussi votre épingle du jeu dans un contexte de forte concurrence. Il y a beaucoup d'aménageurs également sur votre territoire.
Oui, je le dis souvent à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir croiser quelqu'un qui m'interroge sur la concurrence seine-et-marnaise. On est très 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 loin d'être seul, en effet. Ça se sait peu, mais il y a plus d'une dizaine d'opérateurs publics et parapublics en Seine-et-Marne qui interviennent sur les métiers de l'aménagement et de l'immobilier par extension, mais surtout de l'aménagement. Tout le monde connaît naturellement les EPA du territoire seine-et-marnais, l'EPA Seine-et-Marne, l'EPA Marne, l'EPA France. Et puis on a évidemment toute une succession de structures de taille plus modeste que celle que je viens de citer qui interviennent aussi plutôt pour le compte des collectivités territoriales. L'idée était que je préfère fondamentalement, et je crois que c'est partagé avec mes actionnaires, être dans le dialogue le plus total avec toutes ces entités-là et de ne pas être dans une logique qui consiste à essayer de se rentrer dedans les uns les autres. Ça n'aurait guère de sens. On a, je crois, une vocation qui est la même, sur le papier en tout cas. Et je crois que dans les faits, c'est quand même très largement le cas avec la plupart d'entre elles. Donc on dialogue avec toutes ces entités. Et comme on a par ailleurs beaucoup d'opérateurs privés qui ont investi aussi les métiers de l'aménagement, Parfois aussi avec beaucoup de succès. Alors un peu moins en Seine-et-Marne, beaucoup dans d'autres départements, mais ils y arrivent et d'autres le font déjà aujourd'hui. L'idée était de dire, ne nous affrontons pas inutilement, essayons de travailler nos complémentarités. Et c'est là où, en effet, les compétences que l'on a en interne, notamment sur le volet de la construction, qui sont pour moi des compétences qui sont certes pas le métier le plus lucratif de la société, mais des compétences sur lesquelles on s'appuie énormément, parce que ça nous donne vraiment cette capacité de connaître pas uniquement les dimensions foncières et d'aménagement, mais y compris les dimensions immobilières et de construction, d'essayer justement de faire en sorte qu'on arrive à se décaler sur la chaîne de production immobilière par rapport à tous ces aménageurs publics et parapublics, et de faire en sorte qu'au contraire, on essaye de poursuivre l'intervention publique entre eux, qui sont aménageurs sur tous leurs dossiers, et les collectivités en bout de chaîne, qui elles récupèrent évidemment tous les ouvrages et qui sont sous contrat de concession avec les aménageurs précités. Donc nous, on essaie de faire ce trait d'union, pas seul, puisque le privé a toujours évidemment toute sa place. Parfois d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, de façon majoritaire, hein, parce qu'on reste une société à sa juste mesure, qui essaie de ne pas faire l'histoire de la grenouille et du bœuf, très sincèrement, mais d'être en tout cas dans un investissement cohérent avec nos moyens pour permettre plus de faciliter les dossiers qu'au contraire de les ralentir.
On va parler justement un peu de perspective, de développement. Pour vous, vous êtes une structure qui a été assez grosse il y a encore plusieurs années, là, qui a été réduite, qui reprend un peu de poids. Donc, quelles sont vos perspectives ?
Alors, vous avez raison de le souligner, parce que c'est vrai que la SEM a 60 ans d'existence, comme beaucoup de SEM départementales, en fait, hein, créée dans les années 50. On a fêté nos 60 ans l'année dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société, elle a été 45 personnes. Elle est 15 personnes aujourd'hui. Elle était même moins de 10 personnes il y a 3 ans ou 4 ans. Donc autant vous dire que la société, et c'est induit dans ce que je viens de dire, a vécu des cycles. La Seine-et-Marne a subi, ce qui est assez logique pour les territoires qui sont plus fragiles comme cela, dans une dynamique qui est métropolitaine, c'est que lorsque évidemment les effets conjoncturels étaient favorables, ça finissait par arriver sur la Seine-et-Marne, en tout cas la deuxième couronne, mais plutôt à la fin de ce cycle favorable. Et lorsqu'en revanche, il y avait une crise qui pointait le bout de son nez, c'était les premiers territoires desquels, évidemment, les opérateurs partaient. Assez logiquement. Là, intuitivement, tout le monde peut s'y retrouver. Et dans ces conditions, la société a vécu, évidemment, pas mal de crises à certains moments avec ces effets conjoncturels. Ce qui fait que le rôle contracyclique qui aurait pu être le sien d'investissement sur les territoires au moment où c'était le plus difficile, elle n'a pas pu, dans tous les cas, toujours correctement le tenir. Aujourd'hui, on essaie de ne pas avoir l'ambition de revenir sur ce que la société a pu être. On essaie de vivre avec notre temps. On arrive quand même sur une année qui est 2020. On n'est plus dans les années 80-90. Aujourd'hui, on se projette sur vraiment du cas par cas. On essaye vraiment de faire de la couture, de voir les besoins là où c'est nécessaire. Donc nos perspectives, elles sont très clairement sur une évolution tendancielle, sur en tout cas beaucoup de souplesse, sur des métiers, y compris de conseil et de promotion immobilière, choisis pour ne pas aller n'importe où et dans n'importe quel contexte non plus, bien sûr, et de faire en sorte d'avoir un investissement de nos fonds propres qui soit tenu et maîtrisé. Mais surtout, d'être dans une logique d'accompagnement des territoires sur leurs projets. Ben, je vous donne des exemples, mais on entend beaucoup parler en ce moment de tout ce qui peut porter sur les maisons médicales ou des équipements un peu de différentes natures. L'idée probablement pour nous est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse accompagner ces tendances-là sur des produits immobiliers qui ont un caractère aussi un petit peu plus innovant, puisqu'on a travaillé récemment sur des logiques de résidence, de répit pour les aidants et les aidés qui travaillent, les aidés qui sont avec leurs aidants naturels familiaux ou qui ont besoin d'avoir eux aussi des vacances, puisque on le sait tous, avoir à charge parfois un parent proche toute l'année, c'est parfois compliqué, et il existe aujourd'hui encore peu de cadres pour les accueillir. Dans une logique de stratégie départementale, c'est quelque chose qui se défend bien d'avoir un opérateur parapublic comme nous qui essaye de développer aussi ce genre de produits en Seine-et-Marne. Donc nos perspectives, elles sont là, mais je pense qu'on va vivre année après année sans avoir de vision trop long-termiste qui se retrouverait réfutée le moment venu.
Un dernier petit mot peut-être sur les municipales, dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Quels espoirs vous fondez pour la suite ?
Alors, je suis comme tout le monde, hein. C'est vrai que c'est très compliqué là de lire dans le marc de café. J'ai pas le souvenir en tout cas que sur les dernières élections ce soit, ça a été aussi incertain. Difficile de savoir ce qui va en ressortir, on verra bien. En tout cas nous, évidemment, comme beaucoup de structures, on essaie de se détacher de toutes ces contingences-là. On sait qu'il y aura ce lot de d'élus qui vont rester, d'élus qui vont changer. L'idée étant de faire en sorte, pour ceux qui prendront la place de ceux qui et ceux qui partiront, de faire en sorte qu'une société comme la nôtre, certes, elle répond à une commande politique, mais elle répond avant tout à des territoires et aux besoins territoriaux. S'il doit évoluer, on évoluera avec eux. Très sincèrement, je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. On accompagnera les besoins et les envies des territoires au moment où ils arriveront, en fonction de qui les portera.
Merci beaucoup, François Corde, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes.
Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.